Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, à partir de quand émerge la conscience, cette perception que nous avons de notre existence ? Voilà une question à laquelle de nombreux scientifiques de diverses disciplines, astrophysiciens, psychologues, paléontologues ou encore philosophes, ont tenté de répondre dans un ouvrage intitulé « L'univers, la vie, l'homme, émergence de la conscience » aux éditions du CNRS, publié en 2012, le tout sous la direction du préhistorien Henri Lumley. Monsieur, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, correspondant à l'Académie des sciences, directeur de l'Institut de paléontologie humaine. Vous êtes à l'initiative de cette réflexion sur l'homme et sa place dans l'univers. Vous avez initié une série de conférences sur ce thème qui se retrouve ici, transcrite dans cet ouvrage « L'univers, la vie et l'homme ». L'émergence de la conscience pour le préhistorien que vous êtes n'est-elle pas éloignée à la base de vos recherches, Henri Lumley ?
Un petit peu. Bien sûr, on peut s'interroger sur toutes les grandes étapes de l'évolution morphologique et culturelle de l'homme et de savoir à partir de quand, on peut dire, dans l'évolution de la vie, est apparue la conscience. Et la conscience, bien sûr, est apparue sur les formes les plus évoluées des êtres vivants et chez l'homme. Et cet ouvrage est né un peu d'une conversation que j'avais eue avec le père Thierry Delépine, qui est un des organisateurs, des inspirateurs du Collège des Bernardins, à la suite de Mgr Lustiger, cardinal de Paris. Et on avait pensé que c'était bien d'organiser une réunion, où il y aurait une confrontation, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, entre des physiciens, des spécialistes des lois de l'univers, mais aussi des astronomes, des astrophysiciens, des biologistes, des paléontologues, des préhistoriens, mais aussi des philosophes et des théologiens. Et nous avons organisé donc dans ce but au Collège des Bernardins 8 cycles de conférences. Dans chacun de ces cycles, il y avait 4 ou 5 intervenants et au total, 32 spécialistes ont participé à cet ensemble de conférences données au Collège des Bernardins. Alors nous les avons tout retranscrits et elles ont été publiées par CNRS Éditions.
Alors, comme vous l'expliquez, effectivement, on s'intéresse particulièrement à l'homme, mais les premières parties, les premiers chapitres de cet ouvrage s'intéressent déjà, au départ, aux lois de l'univers et aux origines et l'évolution de l'univers. Alors, est-ce que
oui,
déjà, à ce
ça,
moment-là,
bien,
on peut s'intéresser
toute l'histoire de l'univers, toute l'histoire de la vie est un continuum. L'univers, d'après les travaux les plus récents, date de 13 milliards 700 millions d'années. Et c'est dans les premiers millions d'années que sont nées toutes les galaxies. Et dans chaque galaxie naissent régulièrement des étoiles, et chaque jour apparaissent de nouvelles étoiles dans chaque galaxie, et on estime que dans notre galaxie, qu'on appelle la Voie lactée, il y a 200 milliards d'étoiles. Et parmi ces étoiles, il y en a une qui est assez jeune d'ailleurs, qui ne date que de 4,5 milliards d'années, c'est notre étoile, c'est le Soleil, autour duquel s'est formée toutes les planètes qui tournent autour du Soleil. Le Soleil, comme la Terre, sont nés il y a environ 4,5 milliards d'années. Et lorsque notre planète, la Terre, qui tourne autour du Soleil, s'est refroidie et que sa température s'est abaissée au-dessous de 100 degrés, s'est formé l'océan primitif. Et on peut penser que cet océan, on estime que cet océan primitif date d'environ 4 milliards d'années. Et très rapidement, dans cet océan primitif, en moins de 200 millions d'années, entre 3,5 milliards et 3,4 milliards d'années, sont apparues les premières cellules vivantes. C'est des cellules vivantes qui étaient un peu spéciales, qui étaient sans noyau, qu'on appelle les cellules prokaryotes. Et elles pouvaient se reproduire par scissie paritaire, c'est-à-dire en se coupant en deux. Et pendant 2 milliards d'années, la vie était liée aux prokaryotes, comme les algues bleues, par exemple, qui vivent encore actuellement. Et ce n'est que beaucoup plus récemment, vers 1,5 milliard d'années, ça, il a fallu quand même 2 milliards d'années pour passer des prokaryotes à une forme plus complexe de vie qu'on appelle les eucaryotes, c'est-à-dire des cellules qui ont un noyau. Vers 1,5 milliard d'années apparaissent les cellules à noyau. et ces cellules à noyaux vont pouvoir se reproduire non plus par scissiparité, non plus en se coupant en deux, mais vont se reproduire par la reproduction sexuée avec la méiose, la mitose. Et puis, très rapidement, enfin, assez rapidement, il y a des formes beaucoup plus complexes, c'est-à-dire que les cellules eucaryotes isolées se regroupent et forment ce qu'on appelle les métazoaires, c'est-à-dire des organismes vivants composés de plusieurs cellules. Et ceci se passe vers 650 millions d'années, et on appelle souvent ces faunes les faunes des diacaras. Et puis, vers 600 millions d'années, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est l'explosion cambrienne, 600 millions d'années. Et se mettent en place des formes de métazoaires, d'invertébrés, beaucoup plus complexes, avec des antennes, des cils. Et se mettent en place alors la plupart des groupes qui vont conduire aux différents ordres, aux classes d'invertébrés actuels. Et en particulier vers les primates. Et il y a une forme qu'on appelle Picaria, qui a une corde centrale qui est très lointaine, 700 millions d'années des primates. L'époque carbonifère, c'est-à-dire vers 600 millions d'années, a été une période très importante pour l'explosion et le développement et la diversification de la vie. Et puis, parmi ces formes de vertébrés, il va se passer progressivement une évolution très importante. On commence par les poissons, vers 450 millions d'années, vous voyez. Et les poissons sans mâchoire, puis les poissons mâchoires, puis vers 350 millions d'années, une forme plus évoluée qu'on appelle les amphibiens, qui montre le passage de la vie marine, de la vie dans l'eau à la vie terrestre. Puis 300 millions d'années, les reptiles. Or d'abord des petits reptiles, mais après il y a l'explosion des reptiles. Et entre 300 millions d'années et 200 millions d'années, et à partir de 200 millions d'années, jusqu'à 65 millions d'années, les très grands reptiles. Mais à partir de 200 millions d'années, en même temps que les grands reptiles, se forment des petits mammifères qu'on appelle les mammifères reptiliens, qui sont ovipares. On dit des mammifères multituberculés qui sont ovipares, mais qui ne peuvent pas se développer parce que les reptiles occupent maintenant tous les milieux, le milieu terrestre, et où il y a des carnivores, des herbivores, les milieux marins et même le milieu aérien avec leur Archaeopteryx. Mais vers 65 millions d'années, il y a une catastrophe, une véritable crise, qui est due sans doute à une météorite géante qui est tombée au Yucatan, ou aux éruptions volcaniques du Deccan qui ont satellisé des poussières, qui ont rendu l'atmosphère moins lumineuse, qui a entraîné un grand refroidissement, et de nombreuses espèces ont disparu, et en particulier la totalité des grands reptiles, ce qui a laissé le champ libre à l'explosion des mammifères, et à partir de 65 millions d'années, toutes les formes de mammifères se mettent en place, y compris l'ancêtre des primates, un petit ancêtre des primates, qu'on a appelé parfois le Purgatorius, qui a été découvert dans le Montana aux États-Unis. Et à partir de 100 millions, on voit l'évolution des primates qui vont être de plus en plus complexes, avec un cerveau de plus en plus volumineux. Et vers peut-être 7 millions d'années, 6 millions d'années, apparaissent des primates qui acquièrent la station érigée bipède, qui sont déjà deux hominés, et pas encore un homme, parce que marcher debout est une condition nécessaire pour être un homme, mais peut-être pas une condition suffisante. Et cet hominidé a été trouvé, un crâne de ce hominidé très archaïque, qui date de 7 millions d'années, a été trouvé récemment au nord du Tchad par M. Brunet, et on l'appelle le Sahelanthropus tchadensis, ou plus familièrement, Toumaï. Or, Sahelanthropus tchadensis, il marchait debout, car son foramen manium, son occipital, est situé sous le crâne, ce qui prouve qu'il marchait debout, mais il avait un petit cerveau de l'ordre de 350 cm cubes, ce qui correspond à la capacité crânienne d'un chimpanzé. Mais le Sahelanthropus tchadensis est très proche d'un grand singe, et on peut dire que la divergence entre l'homme et les grands singes, l'homme ne descend pas des grands singes, ne descend pas d'un chimpanzé, mais ils ont tous les deux un ancêtre commun qui est situé vers 7 millions d'années ou au-delà.
Voilà comment, en quelques minutes, vous nous avez résumé à une grande part de l'évolution et de la diversité. Donc, nous voilà arrivés justement à cette frontière entre nos cousins et puis donc les préhumains, les humains. Est-ce que l'émergence de la conscience arrive avec la parole, ou est-ce que déjà avant, on peut parler d'émergence de la conscience ?
Mais je crois que je considère que la conscience a dû se mettre en place progressivement. Elle est liée à l'évolution de la cognition. Alors, la première étape, bien sûr, c'est quand on marche debout, que la main est libérée des tâches de locomotion et qu'elle s'associe au système cérébral, 6 millions d'années. Mais un bond très important est situé vers 2 millions et demi d'années. 2 millions et demi d'années, pour la première fois, les hominidés deviennent véritablement des hommes, car ils sont sans doute capables d'avoir un langage articulé, car si l'on examine leur crâne, toutes les conditions anatomiques pour un langage articulé sont réunies. Et d'autre part, pour la première fois, ils fabriquent des outils. Et l'outil témoigne de l'émergence de la pensée conceptuelle. On est capable de concevoir un modèle en fonction d'un projet. Et avec l'invention de l'outil, avec l'acquisition du langage articulé, a débuté il y a 2,5 millions d'années la fabuleuse aventure culturelle de l'homme. Et on peut dire que 2,5 millions d'années, c'est une période importante, et déjà la conscience réfléchie, la pensée réfléchie est déjà en place. Mais elle va s'améliorer, elle va se constituer, se devenir de plus en plus maître d'elle-même au cours du temps. Et on peut dire que ces premiers hommes fabricants d'outils sont des mangeurs de viande, alors que leurs prédécesseurs, les Australopithèques, étaient essentiellement végétariens. Et c'est parce qu'ils veulent manger de la viande qu'ils fabriquent des outils, ou si c'est parce qu'ils sont capables de fabriquer des outils qu'ils peuvent consommer de la viande. Mais ils ne sont pas encore chasseurs, ce sont des charognards. Et vers 1,5 million d'années en Afrique, un peu plus tard en Europe, vers 600 000 en Europe, les hommes passent à une nouvelle étape, ils ne sont plus simplement charognards, ils peuvent le rester encore, mais ils deviennent des chasseurs. Et le chasseur a besoin d'un grand couteau pour ouvrir le poitrail d'un animal, pour récupérer la viande. Et ce grand couteau, c'est ce qu'on appelle le biface. Le biface est un outil qui présente une magnifique symétrie bilatérale, bifaciale, qui est parfois taillée sur une roche de belle couleur, ce qui témoigne
du sens de l'esthétique.
Du sens de l'esthétique, l'émergence du sens de l'harmonie, l'émergence du sens de l'esthétique, le goût du travail bien fait. Et c'est un peu plus de conscience, un peu plus de liberté. Et puis, cela continue, vers 400 000 ans, l'homme domestique le feu. Le feu qui a été un formidable moteur d'homisation. Et autour du foyer, qui éclaire, qui réchauffe, qui permet de faire cuire la viande. En faisant cuire la viande, on fait reculer les parasitos, qui allonge l'espérance de vie, qui permet d'améliorer les outils. Le feu a surtout été un facteur de convivialité au cours du foyer. Les chasseurs d'éléphants, de rhinocéros, de bisons, se racontaient des histoires. Et au fur et à mesure, l'animal qui avait été abattu devenait de plus en plus monstrueux, de plus en plus gros. Le chasseur qui l'a abattu devenait de plus en plus un héros. Et c'est ainsi que sont apparus le sens du groupe, les traditions culturelles régionales, les identités culturelles, et on peut dire qu'il y a un peu plus de conscience. Alors, et puis, on peut continuer cette histoire de l'aventure humaine vers 300 000 ans à peu près. Pour la première fois, on a un témoignage de rites funéraires dans la suite d'Atapuerca,
en Espagne,
près de Burgos, dans la province de Castille et León. Nos collègues espagnols ont trouvé un avène qui a 15 mètres de profondeur, des parois en surplomb. Et au fond de sa veine, ils ont trouvé 3500 restes humains d'Homo erectus, d'un homme européen archaïque, qu'on appelle Homo heidelbergensis, qui correspondent à une vingtaine de défunts, de cadavres, qui ont été précipités au fond de la veine. Mais au milieu de tous ces ossements, où il n'y a pas d'ossements de faune, il n'y a pas d'industrie, mais il y a une seule pièce taillée, un magnifique biface en quartzite rouge, qui présente une belle symétrie bilatérale, il est un peu planofovex, une symétrie bifaciale assez bonne, mais qui n'a jamais servi. Et manifestement, c'est une offrande funéraire. C'est déjà les balbutiements de la pensée symbolique.
Vous nous parlez d'Atapuerca en Espagne, donc avec ses premières sépultures. Je crois savoir qu'en Atapuerca, il y a aussi les traces d'Homo antecessor qui auraient été cannibales. Alors, puisque l'on parle d'émergence de la conscience, je ne sais pas si depuis on a pu vraiment préciser si Homo antecessor était ou non cannibale, mais voilà un rapport là encore intéressant.
Alors, Homo antecessor, c'est une forme assez ancienne, il fait partie des peuples charognards. Les peuples charognards apparaissent en Afrique de l'Est avec les premiers Homo habilis vers 2,5 millions d'années, et ils arrivent beaucoup plus tard au port de l'Europe, en Géorgie par exemple, c'est au port de l'Europe, vers 1,810 million ans, et ils sont présents sur le rivage de la Méditerranée, vers 1,5 million ans à Pyrénées, sur la côte adriatique, où il y a 1,2 million ans, 1,3 million ans, justement, à Barranco-León, en Andalousie, ou même à Atapuerca, dans la Chima de l'éléphante. Et le site de Grandolina, TD6, où on a trouvé les restes de Homo habilis, date de 800 000 ans. C'est encore un peuple charognard, avec des formes graciles, qui sont encore assez proches, peut-être, de l'Homo georgicus de Géorgie, ou de l'Homo habilis d'Afrique de l'Est. Mais on peut dire que la schéma du jeu, c'est beaucoup plus récent, et les balbutiements de la pensée symbolique se situent après la domestication du feu, et c'est au moment des Homo erectus, vers 300 000 ans, où pour la première fois, on a la présence d'un rite funéraire, on peut dire. Mais il y a un nouveau bond en avant, où la conscience devient encore plus forte, c'est vers 100 000 ans.
On enterre les morts.
Pour la première fois, l'homme est capable d'enterrer ses morts. Il creuse une fosse pour déposer le défunt. Et parfois, il met même des offrandes dans la fosse, comme dans la grotte de la Bouffia, à la chapelle Océan Corrèze, il a déposé un thorax de renne et un pied de bison. Parfois, il met des offrandes, par exemple, dans la grotte de Capzé, c'est d'un néandertalien, un panéandertalien, un proto-sapiens, mais porteur des cultures moustériennes. On a enterré un enfant d'environ 9 ans qui tient dans ses mains un bois de cerf. Et c'est sûrement très symbolique. D'ailleurs, souvent, dans des religions plus récentes, des traditions plus récentes, le cerf a été considéré comme un symbole de résurrection puisqu'il perd ses bois au début de l'hiver et qui repousse au printemps. Et manifestement, l'homme de Néandertal, comme les proto-sapiens et les proto-cromagnons de Palestine, porteurs des cultures moustériennes, s'interrogent sur leur signification, sur leur place dans l'histoire de l'univers et dans l'histoire de la vie. Ils refusent la mort, ils veulent poursuivre leur route dans la vie future, dans l'au-delà, si bien qu'ils entrent la mort. C'est la naissance de l'angoisse métaphysique, donc beaucoup plus de conscience.
Qu'y a-t-il après la mort ?
L'émergence de la pensée religieuse. L'homme s'interroge sur sa signification et sur son devenir après la mort. Puis alors, une nouvelle étape extraordinaire, c'est se situe vers 35 000 ans, lorsque, comme vous, madame, ou comme moi, nous avons une paroi verticale de orbite qu'on appelle le front, derrière laquelle se développent les lobes frontaux du cerveau, siège de la pensée associative, d'où l'explosion de la pensée symbolique, avec l'invention de l'art pariétal, de l'art mobilier, l'invention de la parure. Vous avez une petite pendeloque autour du cou, ça ne sert à rien, c'est purement symbolique. Et puis l'invention de la musique aussi, on a trouvé des os de vautours, des os perforés avec des trous. Les os de vautours sont très creux, on les a perforés pour faire des trous pour une flûte. Vous voyez, c'est l'invention de l'art, c'est l'explosion, on peut dire, de la pensée symbolique avec les os modernes. Et puis à une époque beaucoup plus récente, vers le 7e, 8e millénaire, même plus avant, les premiers peuples agriculteurs et pasteurs, c'est-à-dire que l'homme est capable maintenant de rompre l'équilibre avec la nature. Il ne vit plus simplement de chasse, de cueillette, de chasse et de pêche, mais il devient producteur de nourriture, agriculteur et pasteur.
C'est ainsi éleveur,
c'est-à-dire c'est qu'il installe des... Il n'est plus nomade, mais il devient sédentaire, il construit des villages, des maisons, des villages. Et il se forme beaucoup de métiers. Le berger pour garder les moutons, le cultivateur pour planter le blé ou les légumineuses, mais aussi des métiers. Il faut écraser le grain, donc il y a le meunier. Il faut conserver les graines, les céréales ou les laitages. On fabrique des pots, on invente le potier, on fabrique la céramique, c'est l'invention de la céramique. On a beaucoup de laine, parce qu'on a beaucoup de moutons, on peut faire du filage et du tissage. Mais aussi, il faut que les champs soient bien irrigués pour que la récolte soit prospère, que le troupeau puisse boire. Donc, des ingénieurs pour créer des canaux, des ruisseaux. Il faut que tout ça marche. Donc, il faut des chefs. Puis le chef, il faut qu'il soit obéi, des soldats. Et puis, il faut qu'il pleuve au bon moment. Donc, des prêtres pour parler avec les dieux. C'est ainsi que s'est organisée des sociétés complexes. C'est les peuples du Néolithique. Et on vit un peu sur leurs traditions. Mais aujourd'hui, avec Internet, les multimédias, c'est une autre dimension, c'est une nouvelle étape dans l'aventure humaine.
On a fait là un grand bond en avant, une autre étape très importante, où d'ailleurs certains disent que justement c'est ce qui distingue la préhistoire de l'histoire, c'est l'écriture.
Ah oui, alors, je ne sais pas si l'écriture, c'est dans les premiers peuples agriculteurs et pasteurs, les premiers peuples métallurgistes, qu'un jour les hommes sont capables d'écrire des signes. Et par exemple la montagne sacrée du Bégo,
dans les Alpes-Maritimes,
qui est située dans les Alpes-Maritimes, à 80 km de Nice, et on a une montagne sacrée, dans lesquels on a mis en évidence 4150 roches gravées, sur lesquelles il y a inscrit plus de 100 000 signes, donc 45 000 gravures significatives, qui sont des idéogrammes, qui nous transmettent les préoccupations économiques et les mythes cosmogoniques des premiers peuples métallurgiques des Amérindiens. Et ces gravures, ces icônes, ces idéogrammes, sont encore contemporains des écritures cunéiformes de Sumer, entre le Tigre et la femme, ou contemporains des plus anciennes écritures hiéroglyphiques égyptiennes, qui datent de 3300-3200 ans avant notre ère. L'homme est capable de transmettre des messages à travers l'espace et à travers le temps.
Alors pour terminer cette émission, j'aimerais vous lire ce qu'écrit Yves Coppens et Yann Tattersall, qui ont participé eux aussi à ce cycle de conférences. Ils ont dit « L'esprit, en un sens, est né d'un coup. On est intelligent, l'esprit est là, on est humain. »
Oui, mais alors ça se passe avec l'émergence de la pensée conceptuelle vers 2 550 000 ans.
Donc depuis 2 500 000 ans, on est dans la pensée conceptuelle.
On est conceptuel, dans la conscience, mais celle-ci s'est améliorée. La pensée conceptuelle, dans le sens de la liberté, est devenue plus en plus importante.
Je vous remercie Henri Lumley d'être venu nous parler de cet ouvrage. Je rappelle le titre, L'univers, la vie, l'homme, émergence de la conscience, sous votre direction. Et alors je rappelle que parmi les intervenants, donc bien sûr ils étaient très nombreux, mais quelques confrères à l'Académie des sciences, Yves Coppens comme je venais de le dire, mais également Stanislas Dehaene, Jean Kowalewski, Pierre Léna, Guylaine Marcilly, Yves Quiré, donc comme je le disais, comme vous le disiez aussi, des disciplines très variées. Merci d'être venu nous voir et j'espère à bientôt pour une prochaine émission et vous écouter toujours avec beaucoup d'intérêt.
Merci beaucoup, madame.